Le Capital, livre 1er, première section, chapitre grand 3, grand 3, petit c. La monnaie universelle. À sa sortie de la sphère intérieure de la circulation, l'argent dépouille les formes locales qu'il y avait revêtues, formes de numéraire, de monnaie d'appoint, d'étalons des prix, de signes de valeur, pour retourner à sa forme primitive de barre ou lingot. C'est dans le commerce entre nations que la valeur des marchandises se réalise universellement. C'est là aussi que leur figure valeur leur fait vis-à-vis sous l'aspect de monnaie universelle. Monnaie du monde, ouvrez la parenthèse, money of the world, fermez la parenthèse, comme l'appelle James Stewart. Monnaie de la grande république commerçante, comme disait après lui Adam Smith. C'est sur le marché du monde, et là seulement, que la monnaie fonctionne dans toute la force du terme, comme la marchandise dont la forme naturelle est en même temps l'incarnation sociale du travail humain en général. Sa manière d'être y devient adéquate à son idée. Dans l'enceinte nationale de la circulation, ce n'est qu'une seule marchandise qui peut servir de mesure de valeur et par suite de monnaie. Sur le marché du monde règne une double mesure de valeur, l'or et l'argent. Note de bas de page. C'est ce qui démontre l'absurdité de toute législation qui prescrit aux banques nationales de ne tenir en réserve que le métal précieux qui fonctionne comme monnaie dans l'intérieur du pays. Les difficultés que s'est ainsi créée volontairement la Banque d'Angleterre, par exemple, sont connues. Dans le Bank Act de 1844, Sir Robert Peel chercha à remédier aux inconvénients en permettant à la banque d'émettre des billets sur des lingots d'argent, à la condition cependant que la réserve d'argent ne dépasserait jamais d'un quart la réserve d'or. Dans ces circonstances, la valeur de l'argent est estimée chaque fois d'après son prix en or sur le marché de Londres. Sur les grandes époques historiques du changement de la valeur relative de l'or et de l'argent, voir Karl Marx, Locksit, page 136 et suivante. Fin de la note de bas de page. Donc, dans l'enceinte nationale de la circulation, ce n'est qu'une seule marchandise qui peut servir de mesure de valeur et par suite de monnaie. Sur le marché du monde règne une double mesure de valeur, l'or et l'argent. La monnaie universelle remplit les trois fonctions de moyen de paiement, de moyen d'achat et de matière sociale de la richesse en général. Ouvrez la parenthèse. Universal wealth. Fermez la parenthèse. Quand il s'agit de solder les balances internationales, la première fonction prédomine. De là, le mot d'ordre du système mercantile, balance de commerce. Note de bas de page. Les adversaires du système mercantile, d'après lequel le but du commerce international n'est pas autre chose que le solde en or ou en argent de l'excédent d'une balance de commerce sur l'autre, méconnaissaient complètement de leur côté la fonction de la monnaie universelle. La fausse interprétation du mouvement international des métaux précieux n'est que le reflet de la fausse interprétation des lois qui règlent la masse des moyens de la circulation intérieure, ainsi que je l'ai montré par l'exemple de Ricardo, ouvrez la parenthèse, Locksit, page 150, fermez la parenthèse. Son dogme erroné, ouvrez les guillemets. Une balance de commerce défavorable ne provient jamais que de la surabondance de la monnaie courante, trois petits points, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, l'exportation de la monnaie est causée par son bas prix, et n'est point l'effet, mais la cause d'une balance défavorable, fermez les guillemets, se trouve déjà chez Barbon, ouvrez les guillemets. La balance du commerce, s'il y en a une, n'est point la cause de l'exportation de la monnaie d'une nation à l'étranger. Mais elle provient de la différence de valeur de l'or ou de l'argent en lingots dans chaque pays. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, N. Barbon, Locksit, page 59-60, fermez la parenthèse. McCulloch, dans sa Literature of Political Economy, A Classified Catalog, London 1845, loue Barbon pour cette anticipation, mais évite avec soin de dire un seul mot des formes naïves sous lesquelles se montrent encore, chez ce dernier, les suppositions absurdes du, ouvrez les guillemets, currency principle, fermez les guillemets. L'absence de critique et même la déloyauté de ce catalogue éclate surtout dans la partie qui traite de l'histoire de la théorie de l'argent. La raison en est que le sycophante McCulloch fait ici sa cour à Lord Hoverstone, ouvrez la parenthèse, l'ex-banquier Lloyd, fermez la parenthèse, qu'il désigne sous le nom de, ouvrez les guillemets, facile princeps argentariorum, fermez les guillemets, fin de la note de bas de page. Donc, la monnaie universelle remplit les trois fonctions de moyen de paiement, de moyen d'achat et de matière sociale de la richesse en général. Universal Wealth, entre parenthèses. Quand il s'agit de solder les balances internationales, la première fonction prédomine. De là, le mot d'ordre du système mercantile, balance de commerce. L'or et l'argent servent essentiellement de moyen d'achat international toutes les fois que l'équilibre ordinaire dans l'échange des matières entre diverses nations se dérange. Enfin, il fonctionne comme forme absolue de la richesse quand il ne s'agit plus ni d'achat ni de paiement, mais d'un transfert de richesse d'un pays à un autre et que ce transfert sous forme de marchandises est empêché, soit par les éventualités du marché, soit par le but même qu'on veut atteindre. Note de bas de page. Par exemple, la forme monnaie de la valeur peut être de rigueur dans les cas de subsides, d'emprunts contractés pour faire la guerre, ou mettre une banque à même de reprendre le paiement de ses billets, etc. Fin de la note de bas de page. Donc, l'or et l'argent servent essentiellement de moyen d'achat international toutes les fois que l'équilibre ordinaire dans l'échange des matières entre diverses nations se dérange. Enfin, il fonctionne comme forme absolue de la richesse quand il ne s'agit plus ni d'achat ni de paiement, mais d'un transfert de richesse d'un pays à un autre, et que ce transfert, sous forme de marchandises, est empêché soit par les éventualités du marché, soit par le but même qu'on veut atteindre. Chaque pays a besoin d'un fonds de réserve pour son commerce étranger, aussi bien que pour sa circulation intérieure. Les fonctions de ces réserves se rattachent donc, en partie, à la fonction de la monnaie comme moyen de circulation et de paiement à l'intérieur, et en partie à sa fonction de monnaie universelle. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Il n'est pas, selon moi, de preuve plus convaincante de l'aptitude des fonds de réserve à mener à bon terme toutes les affaires internationales sans aucun recours à la circulation générale que la facilité avec laquelle la France, à peine revenue du choc d'une invasion étrangère, compléta, dans l'espace de 27 mois, le paiement d'une contribution forcée de près de 20 millions de livres exigée par les puissances alliées, et en fournit la plus grande partie en espèces, sans le moindre dérangement dans son commerce intérieur, et même sans fluctuations alarmantes dans ses échanges. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. Fullerton, Locksit, page 141, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, chaque pays a besoin d'un fonds de réserve pour son commerce étranger, aussi bien que pour sa circulation intérieure. Les fonctions de ces réserves se rattachent donc en partie à la fonction de la monnaie comme moyen de circulation et de paiement à l'intérieur, et en partie à sa fonction de monnaie universelle. Dans cette dernière fonction, la monnaie matérielle, c'est-à-dire l'or et l'argent, est toujours exigée. C'est pourquoi James Stewart, pour distinguer l'or et l'argent de leurs remplaçants purement locaux, les désigne expressément sous le nom de « Money of the World ». Le fleuve aux vagues d'argent et d'or possède un double courant. D'un côté, il se répand à partir de sa source sur tout le marché du monde où les différentes enceintes nationales le détournent en proportions diverses pour qu'il pénètre leurs canaux de circulation intérieure, remplace leurs monnaies usées, fournisse la matière des articles de luxe et enfin se pétrifie sous forme de trésor. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. L'argent se partage entre les nations relativement aux besoins qu'elles en ont, étant toujours attiré par les productions. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Le trône, Locksit, page 916. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Les mines qui fournissent continuellement de l'argent et de l'or en fournissent assez pour subvenir aux besoins de tous les pays. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Van der Lint, Locksit, page 80, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, le fleuve aux vagues d'argent et d'or possède un double courant. D'un côté, il se répand à partir de sa source sur tout le marché du monde où les différentes enceintes nationales le détournent en proportions diverses pour qu'il pénètre leurs canaux de circulation intérieure, remplace leur monnaie usée, fournisse la matière des articles de luxe et enfin se pétrifie sous forme de trésor. Cette première direction lui est imprimée par les pays dont les marchandises s'échangent directement avec l'or et l'argent aux sources de leur production. Les métaux précieux courent de côté et d'autre, sans fin ni trêve, entre les sphères de circulation des différents pays, et ce mouvement suit les oscillations incessantes du cours du change. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Le change subit chaque semaine des alternations de hausse et de baisse. Il se tourne à certaines époques de l'année contre un pays et se tourne en sa faveur à d'autres époques. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, End Barben, Locksit, page 39, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, en même temps, les métaux précieux courent de côté et d'autre, sans fin ni trêve, entre les sphères de circulation des différents pays, et ce mouvement suit les oscillations incessantes du cours du change. Les pays dans lesquels la production a atteint un haut degré de développement restreignent au minimum exigé par leurs fonctions spécifiques les trésors entassés dans les réserves de banques. Note de bas de page. Ces diverses fonctions peuvent entrer en un conflit dangereux dès qu'il s'y joint la fonction d'un fonds de conversion pour les billets de banque. Fin de la note de bas de page. Donc, les pays dans lesquels la production a atteint un haut degré de développement restreignent au minimum exigé par leurs fonctions spécifiques les trésors entassés dans les réservoirs de banques. À part certaines exceptions, le débordement de ces réservoirs par trop au-dessus de leur niveau moyen est un signe de stagnation dans la circulation des marchandises ou d'une interruption dans le cours de leur métamorphose. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Tout ce qui, en fait de monnaie, dépasse le strict nécessaire pour un commerce intérieur est un capital mort et ne porte aucun profit au pays dans lequel il est retenu. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. John Bellus, L'Occitane, page 12, fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Si nous avons trop de monnaie, que faire? Il faut fondre celle qui a le plus de poids et la transformer en vaisselle splendide, en vase ou ustensile d'or et d'argent, ou l'exporter comme une marchandise là où on la désire, ou la placer à intérêt là où l'intérêt est élevé. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. W. Petty. Cantulum cumque. Page 39. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. La monnaie n'est, pour ainsi dire, que la graisse du corps politique. Trop nuit à son agilité. Trop peu le rend malade. Trois petits points. De même que la graisse lubrifie les muscles et favorise leur mouvement, entretient le corps quand la nourriture fait défaut, remplit les cavités et donne un aspect de beauté à tout l'ensemble. De même, la monnaie, dans un état, accélère son action, le fait vivre du dehors dans un temps de disette au dedans, règle les comptes, trois petits points, et embellit le tout. Mais plus spécialement, ajoute Petit avec ironie, les particuliers qui la possèdent en abondance. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. W. Petit, Political Anatomy of Ireland, page 14, fermez la parenthèse. Donc, à part certaines exceptions, le débordement de ces réservoirs par trop au-dessus de leur niveau moyen, est un signe de stagnation dans la circulation des marchandises ou d'une interruption dans le cours de leur métamorphose.